Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième saison d'Entendez-vous l'écho, votre magazine d'économie que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une nouvelle année s'offre à nous et avec elle une toute nouvelle équipe. Marguerite Caton, Xavier Martinet, Paloma Soria-Brand et Aliette Ovine. À la réalisation, Anne de Pelchin et Charlotte Roux. À la technique aujourd'hui, Cindy Le Grumelec.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Alors que le G7 s'achève ce soir à Biarritz, les mauvaises nouvelles se multiplient pour l'économie mondiale. Risque de récession en Allemagne, ralentissement chinois, menace sur le commerce international. Jamais en l'espace de 10 ans, les risques d'une récession mondiale n'avaient été si élevés. Une inquiétude dont nous allons tenter de saisir tous les enjeux cette semaine. Demain, nous questionnerons le rôle des banques centrales dans la relance de la croissance. Mercredi, c'est la crise économique de 1847 et les révolutions qui l'ont accompagnée qui nous intéresseront. Jeudi, enfin, nous interrogerons l'idée d'une accélération des cycles. Mais avant tout, il nous faut démêler les causes et évaluer l'ampleur de ce ralentissement mondial. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Et pour nous accompagner tout au long de cette première émission de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Thimbault, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et professeur à Sciences Po. À 14h50, nous retrouverons le journal de l'écho présenté cette année par Xavier Martinet. Bonjour Xavier Thimbault.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être peut-on commencer par définir ce terme de récession qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un risque de récession et non pas de dépression par exemple ou même de crise ?
Alors quand on parle de récession, c'est dans un vocable, dans un domaine de signification qui se veut plutôt technique et donc plutôt rassurant. Quand on va utiliser les mots de dépression ou de crise, on sous-entend quelque chose de beaucoup plus anxiogène, de beaucoup plus ample. Voilà, la récession, c'est presque un peu l'ordinaire des cycles économiques. Il y a la phase d'expansion, et ce qui est le symétrique ou l'opposé de l'expansion, c'est la récession. C'est le moment où l'économie ralentit, voire peut décroître, mais finalement, sans que ses fondements, les fondements de la société pour laquelle cette économie fonctionne ou dans laquelle cette économie fonctionne ne soient mis en cause.
Donc la récession peut précéder la crise ou succéder à la crise comme c'était le cas en 2008-2009.
Voilà, alors une récession qui se prolonge, qui s'aggrave ou une récession dont on ne peut pas sortir est une crise. La récession par exemple du milieu des années 70, de 73 au moment des chocs pétroliers s'est révélée en fait être une récession durable. Et donc s'est transformé, le vocabulaire a changé et on a fini par parler de crise plutôt que de parler simplement de récession quand ça mobilise plus de choses, ça induit plus de modifications structurelles, il y a plus de choses qui sont mises en cause. Voilà, la dépression, c'est une récession qui non seulement se prolonge mais surtout est beaucoup plus accélérée et s'accompagne d'une spirale, d'un cercle vicieux qui fait plonger l'économie et la caractéristique de la dépression, c'est qu'en fait, on ne voit pas où ça s'arrête. Voilà. Une récession, a priori, ça fait partie du mouvement de reflux, mais ça peut avoir des conséquences graves sur certains individus, dans certains secteurs.
Mais
a priori,
ce n'est
pas quelque chose qui se systématise et qui remet en cause une société.
Et alors, quels sont aujourd'hui, Xavier Thimbault, les indices qui augurent d'une récession qui serait généralisée et peut-être durable? On pense d'abord peut-être à la dégringolade boursière du 14 août. Ça a été un des signaux les plus sérieux.
Oui, on est dans une phase qui est compliquée, en tout cas qui est compliquée du point de vue des anticipations. Tout le monde a un peu de mal à se dire qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ou celle d'après. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont à la fois positifs et à la fois négatifs. Par exemple, les cours boursiers sont très élevés historiquement. On pourrait se dire, on pourrait s'en réjouir en se disant.
Qu'est-ce que ça signifie les cours boursiers à très vite?
Les valeurs des actifs sont à des niveaux très élevés. Les cours boursiers, après avoir plongé pendant la crise de 2008, ont récupéré des niveaux élevés. La profitabilité des entreprises, les bénéfices qu'elles réalisent sont aussi très élevés. On a atteint des records, par exemple, de bénéfices versés par les entreprises. Donc, ça, d'un côté, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais en même temps, on se dit, bah, peut-être que ces cours boursiers sont trop élevés. Ils sont surévalués, et donc il va y avoir une correction. Et ça, ça peut engendrer une panique boursière. C'est-à-dire des gens qui se disent, si le prix est élevé aujourd'hui et qu'il doit baisser demain, autant que je vende le plus rapidement possible. Et ça, ça peut enchaîner une vague de ventes qui va provoquer une correction très brutale des bourses. Alors, on craint cette correction brutale. On en parle assez souvent. Jusqu'à maintenant, elle ne s'est pas produite. C'est-à-dire qu'il y a eu des corrections, mais en fait, les bourses sont reprises ensuite. Donc, on est un peu suspendu, vous voyez, dans une situation qui n'est pas défavorable. Du point de vue de l'investisseur, évidemment, des cours boursiers élevés, ça veut dire que son patrimoine, son portefeuille a beaucoup de valeur, mais il peut tout perdre. On est un peu dans celui qui a du mal à dormir parce qu'il a peur de tout perdre.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 14 août? On a parlé de l'inversion de la courbe des taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça signifie, Xavier Timbaud?
Alors, quand on parle de l'inversion de la courbe des taux d'intérêt, en l'occurrence, on parle de l'inversion de la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis. On compare le taux d'intérêt souverain sur des taux à 10 ans, donc un taux qui est fixé pendant 10 ans pour un titre, un bon du trésor américain, donc un titre public associé à toute la sécurité de l'État américain. Et on compare le rendement de ce titre à 10 ans avec un titre lui-même à 2 ans. Donc en fait, on fait une différence entre un rendement à 2 ans, fixe pendant 2 ans, et un rendement fixe pendant 10 ans.
Et normalement, plus les échéances sont longues, plus les taux d'intérêt sont élevés.
Voilà, parce que vous payez le fait que ce taux va être fixe pendant 10 ans, au lieu d'être fixe pendant 2 ans. En fait, vous pourriez emprunter pendant 10 ans en réempruntant tous les 2 ans, en ayant une incertitude sur quelle sera la valeur du taux dans 2 ans, dans 4 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Et donc, pour compenser cette incertitude, normalement, vous payez plus cher quand vous empruntez à 10 ans, quand l'État américain emprunte à 10 ans.
Or, ce qui s'est passé mi-août, c'est que précisément, c'est devenu plus intéressant d'emprunter à court terme, Xavier Timbaud.
Voilà. C'est devenu pour l'État américain moins cher d'emprunter à 10 ans que effectivement d'emprunter à court terme. Donc le taux d'intérêt à 10 ans est devenu plus bas que le taux d'intérêt à 2 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'a priori, un certain nombre de gens qui ont de l'épargne ont peur d'utiliser leur épargne dans l'économie, ont peur d'investir et préfèrent acheter de la sécurité, préfèrent payer une sorte de taxe en fait auprès de l'État américain en échange de la sécurité qu'il leur a apportée. Cette sécurité, c'est de dire, dans 10 ans, vous aurez le rendement annuel à 10 ans, il est d'à peu près 1,4% aujourd'hui, donc vous aurez 1,4% garanti pendant 10 ans, et dans 10 ans, vous pourrez récupérer votre argent. Et donc, les gens qui ont de l'épargne, les investisseurs qui sont dans ces positions-là, semblent préférer acheter des titres publics plutôt que d'aller investir dans des entreprises privées. Et ça, généralement, c'est interprété comme un signe d'indécision, de peur quant à l'avenir. Et donc, on se dit, cette peur quant à l'avenir, elle signifie que l'ensemble des anticipations, elles sont plutôt négatives et on anticipe plutôt un ralentissement, voire un ralentissement très fort, c'est-à-dire une récession de l'économie dans les années qui viennent.
Et alors cette frilosité des investisseurs, on l'observe aussi à travers cette course aux valeurs refuges comme l'or. Le cours de l'or a largement augmenté depuis le mois de juin environ.
Exactement, c'est des phénomènes qui sont effectivement très corrélés. Donc les valeurs refuges, c'est les titres publics, mais c'est aussi ce que Keynes appelait la relique barbare, l'or. Pourquoi l'or est une valeur refuge, c'est toujours un peu mystérieux, mais parce qu'on imagine que en cas de panique monétaire totale, on n'a pas observé de panique monétaire totale depuis très très longtemps. Donc c'est là où c'est un petit peu curieux, mais en cas de panique monétaire totale, en cas d'effondrement complet des économies, l'or serait à nouveau un moyen de paiement recherché, et donc que ça vaut la peine d'investir dans l'or. Ça ne s'est pas produit depuis tellement longtemps que c'est assez douteux, mais en tout cas, le thermomètre persiste. Peu de gens, peu de particuliers vont à la banque acheter de l'or aujourd'hui. Donc quand le cours monte, c'est plutôt des spéculateurs qui achètent des grandes quantités d'or. Mais c'est un thermomètre, un nouvel indicateur qu'effectivement, il y a des nuages qui s'accumulent à l'horizon et que ça se traduit par des anticipations. Alors, par contre, il faut bien faire attention, l'inversion de la courbe des taux, le cours de l'or, ce sont des symptômes, ce ne sont pas des causes. Mmh. Et donc, ça traduit un état d'esprit aujourd'hui, une somme, une moyenne des anticipations des agents économiques sur l'économie, qui sont négatifs, mais ça ne cause pas...
C'est le signe d'une inquiétude.
C'est le signe d'une inquiétude. Mmh. Ce n'est pas en soi la cause à venir d'une possible récession ou d'un ralentissement de l'économie.
Vous parliez tout à l'heure, Xavier Timbaud, du fait d'investir dans des obligations d'État. Ça, c'est un investissement qui est considéré comme sûr. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'obligations d'État qui sont à taux négatif. Je crois que c'est 2/3 des obligations d'État en Europe. Alors, expliquez-nous, en fait, en réalité, ce qu'on observe, c'est que les investisseurs, finalement, préfèrent perdre de l'argent pour garder leurs avoirs en lieu sûr.
Exactement. Ça peut paraître un peu paradoxal d'avoir un taux négatif, mais en fait, il faut vraiment imaginer ça comme un frais de garde que vous auriez sur une somme d'argent. Imaginez, vous êtes une grande entreprise, vous avez beaucoup de trésorerie, vous n'avez pas de projet d'investissement. Donc ça, ça peut être un des mécanismes qui va provoquer la récession à venir. Vous n'avez pas de projet d'investissement. Mais du coup, ce cash, vous ne savez pas quoi en faire. Donc vous pourriez décider de l'investir dans d'autres entreprises. Mais sauf que si personne n'a de projet d'investissement, ou si vous pensez que personne n'a de projet d'investissement, vous n'imaginez aucun projet valable en termes de rendement, voire même vous pouvez avoir peur de perdre votre argent, c'est-à-dire de perdre tout votre argent. Et là, vous préférez dire, je vais acheter des bons du trésor public. Alors, américains, ils ont encore un rendement positif, mais effectivement, français ou allemand, vous avez un rendement qui est négatif. Ce que ça veut dire, c'est que le milliard d'euros de cash que vous allez investir en bons du trésor, vous allez récupérer ce milliard d'euros moins 1% ou 2% dans 3 ou 4 ans. Et ce coût représente la sécurité qui vous est apportée. Vous êtes sûr de pouvoir les récupérer parce que vous aurez acheté des bons du trésor allemands. Et vous n'imaginez pas une situation où le gouvernement allemand ne serait plus capable de payer ses bons du trésor. Et donc, à partir de là, vous avez mis en sécurité votre trésorerie. Alors là où c'est toujours un symptôme embêtant, c'est que ça veut dire que vous privilégiez de mettre votre trésorerie sur des bons du trésor plutôt que de le laisser par exemple à la banque. Vous avez plus peur que la banque fasse faillite et vous êtes prêt à payer, à vous assurer contre ce risque d'une faillite de la banque.
Donc, et c'est là qu'on entre dans un cercle vicieux. Alors on voit bien effectivement, Xavier Timbaud, les symptômes de ce ralentissement mondial. Mais alors comment l'expliquer? Et la question que l'on se pose évidemment, c'est jusqu'à quel point ce ralentissement est dû à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui dure depuis bientôt un an et demi maintenant.
Alors c'est un des facteurs, ça c'est évident. C'est un des facteurs parce que on a pu à la fois le répéter à l'envi dans un certain nombre d'analyses. Alors, ces analyses ne sont pas toujours totalement crues ou crédibles parce qu'elles sont portées par des organisations internationales comme le FMI ou l'OCDE ou la Banque mondiale qui ont beaucoup défendu le développement du commerce international. Donc, elles sont toujours un peu suspectes de vouloir défendre quelque chose qu'elles ont défendu par le passé.
Des frontières entièrement ouvertes.
Des frontières entièrement ouvertes, une certaine vision du libéralisme. Et le discours de Donald Trump, qui n'est pas forcément très construit, mais en tout cas, de ce point de vue-là, il est assez clair, consiste à dire, cette ouverture des frontières, elle est négative pour les économies, et donc cesser de les ouvrir, mettre des droits d'importation sur les produits qu'on importe de Chine, par exemple, ça va au contraire favoriser notre économie. Mais c'est bien dans cette perspective-là qu'on anticipe qu'il peut y avoir un ralentissement de l'économie.
Justement, je vous propose d'écouter Donald Trump.
Laissez-moi vous dire une chose. Notre économie se porte très bien. Mais quelqu'un devait s'attaquer à la Chine. Et je vois et je lis beaucoup de choses. Et je vois ces économistes dire, oh, laissez tomber la Chine. La Chine arnaque ce pays depuis 25 ans, plus longtemps même. Et il est grand temps que ce soit bon ou mauvais pour notre pays à court terme. Il est impératif à long terme que quelqu'un le fasse. Parce que notre pays ne peut pas continuer à payer 500 milliards de dollars par an à la Chine parce que des personnes stupides la dirigent.
Voilà, on le sait, c'est la Chine qui était visée par les mesures commerciales prises, les sanctions commerciales prises par les États-Unis. Mais en réalité, ce que l'on constate depuis maintenant un an et demi, c'est que cette guerre commerciale ne semble faire que des perdants, Xavier Timbaud.
Oui, c'est là tout le paradoxe. Alors, c'est assez intéressant ce discours de Donald Trump, parce que c'est vraiment tout le paradoxe qui est derrière. C'est-à-dire, Donald Trump dit « je vais installer des droits de douane parce que la Chine nous arnaque et que ça a été mauvais pour l'économie américaine ». Et donc, à ce moment-là, en toute logique, ça devrait être bon pour l'économie américaine de mettre en place ces mesures-là. Alors, on peut faire une distinction entre bon à court terme et bon à moyen terme ou à long terme, le temps que l'économie américaine se réindustrialise et le temps que ses activités reviennent aux États-Unis. Mais on voit bien quand même que ce court terme, il dure assez longtemps et que, effectivement, aujourd'hui, les craintes de récession, elles sont précisément associées à cette guerre commerciale. Donc, d'une certaine façon, les craintes de récession, elles ne valident pas du tout le diagnostic de Donald Trump. Elles ont plutôt tendance à plutôt valider le diagnostic de la Banque mondiale ou du FMI qui dit la guerre commerciale, ça coûte à court terme et à long terme. Et au contraire, ça va être négatif pour l'économie américaine et l'économie mondiale.
Et en même temps, l'économie américaine, pardon de vous couper, mais a affiché des taux de croissance particulièrement importants, enfin faire pâlir d'envie les responsables européens tout au long de l'année 2018.
Alors, c'est vrai, mais là, c'est une autre dimension de la politique de Donald Trump qui est en jeu, parce que les dirigeants européens ont plutôt tendance à regarder, quand ils veulent se faire pâlir d'envie, les taux de croissance aux États-Unis, mais ils regardent beaucoup moins l'évolution de la dette ou l'évolution des déficits. Mais ce qu'a fait Donald Trump, c'est une relance budgétaire massive, qui est passé par une baisse des impôts, en particulier auprès des entreprises, qui va s'accompagner aussi d'une augmentation des inégalités. Et donc, vous voyez, la politique budgétaire de Donald Trump a consisté à creuser le déficit, à augmenter la dette, à effectivement accélérer la croissance, mais pas suffisamment pour compenser les effets sur le déficit ou sur la dette, et aussi à avoir des effets sur les inégalités. Alors, les dirigeants européens, ils regardent la croissance, mais ils regardent aussi les inégalités, et ils regardent beaucoup la dette et les déficits. De ce point de vue-là, les États-Unis ne sont pas du tout dans le modèle qu'ils pourraient souhaiter.
Alors, on va revenir sur ce point dans un instant, parce qu'évidemment, c'est essentiel de voir la réalité de ces prévisions. Est-ce que les États-Unis pourraient être en récession en 2020, en 2021, comme on a pu l'entendre? Mais d'abord, on a également entendu que cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Xavier Timbaud, pouvait être à la fois une chance ou une menace pour l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, effectivement, c'est là aussi, il y a une ambiguïté. Alors, c'est une menace dans un scénario qui serait celui d'un développement de cette guerre commerciale tous azimuts. Alors, en plus, Donald Trump a donné un certain nombre de signes. Il est très obsédé par l'excédent commercial chinois, mais il y a aussi un excédent commercial européen, en particulier allemand, en particulier dans le domaine de l'automobile, qui pourrait aussi donner lieu à des droits de douane pour essayer de le réduire, exactement en poursuivant le raisonnement qui a été poursuivi pour la Chine.
Alors, donc si l'Europe était directement visée, cela deviendrait un problème, mais est-ce qu'elle peut être profitée de cette guerre si elle oppose essentiellement les États-Unis et la Chine?
Et alors oui, justement, ça c'est aussi un autre paradoxe, c'est qu'en fait une guerre commerciale strictement limitée entre les États-Unis et la Chine va favoriser l'Europe, qui va à la fois pouvoir développer des échanges avec la Chine, mais surtout développer des échanges avec les États-Unis. Et même si, globalement, l'économie mondiale se portera moins bien, parce que l'économie américaine et l'économie chinoise croîtraient moins vite ou auraient une activité plus basse, et que ça aurait des conséquences sur l'Europe, malgré cet effet-là, le report du commerce sur l'Europe pourrait favoriser l'Europe, effectivement, et conduire à un résultat positif. Alors, il y a tout un tas d'études, de simulations qui ont pu être faites, et dans un certain nombre de ces simulations, en fait, ça peut être positif pour l'Europe, même dans un cas où c'est négatif, globalement, sur la planète. Ça dépend quand même beaucoup de comment cette guerre commerciale se développe, et à quel point l'Europe arrive à jouer une carte positive, à la fois avec les États-Unis et la Chine, dans ce jeu-là. Sachant que c'est deux pays exportateurs qui auront besoin de pouvoir exporter. Et donc là effectivement, l'Europe peut tirer son épingle du jeu.
Parce qu'il y a la question de la guerre commerciale, mais il y a aussi la question d'un ralentissement peut-être plus structurel de l'activité manufacturielle auquel on assiste, Xavier Timbaud. Est-ce qu'on n'incrimine pas trop la guerre commerciale en oubliant qu'en réalité, l'activité manufacturière ralentit?
Oui, alors il y a plusieurs choses, même peut-être avant de parler de l'activité manufacturière, je pense qu'il y a dans cette guerre commerciale une autre chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fait, on est en train de sortir du modèle du commerce international des accords de Bretton Woods, celui qui était beaucoup basé sur des biens industriels. Et on va de plus en plus vers une économie dans laquelle la question de droits de propriété intellectuels sont très importants, les aspects technologiques sont très importants. La guerre commerciale en fait entre la Chine et les États-Unis, elle est beaucoup aussi liée à cette mutation de l'économie vers une économie de la propriété industrielle. Et la Chine, c'est aussi une des façons dont on peut interpréter les propos de Donald Trump, a très peu joué le jeu de s'intégrer dans le schéma de la propriété intellectuelle mondiale, ce que les États-Unis et l'administration américaine, et pas simplement Donald Trump, reprochent beaucoup à la Chine, et qui alimente cette guerre commerciale. Alors, ça fait partie des changements structurels qui génèrent de l'incertitude, qui peuvent générer beaucoup d'opportunités, mais qui peuvent aussi s'avérer décevants, c'est-à-dire consommer énormément de ressources en investissement pour des retours sur investissement qui seront pas si grands que ça, avec l'idée que, en plus, dans ces domaines de la propriété intellectuelle, on est dans des situations qui sont un peu on-off en termes de parts de marché. Soit vous n'avez pas de parts de marché, soit vous avez toutes les parts de marché. Et donc, si vous êtes systématiquement du côté des perdants, celui qui n'a pas de part de marché, ça veut dire que vos investissements vous rapportent vraiment zéro. Et ça, c'est un cas catastrophique que vous voulez absolument éviter et qui peut accentuer ces phénomènes de guerre commerciale.
Et en même temps, ce à quoi on assiste, Xavier Timbaud, c'est un investissement important de la Chine dans la recherche et le développement. Effectivement, on a longtemps accusé la Chine, à tort ou à raison, d'espionnage industriel. Aujourd'hui, on voit que c'est une priorité pour le régime chinois.
Tout à fait. La Chine a publié un plan sur l'état de son économie en 2050, dans lequel très clairement elle annonce qu'elle veut être leader en matière de technologie, dans toutes les technologies de demain, que ce soit les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, qu'ils soient utilisés pour le transport des individus ou des marchandises, ou aussi dans le domaine militaire, donc, parce qu'il y a aussi une question militaire derrière cette dimension technologique, les technologies du spatial, les technologies de la communication. Donc là-dessus, la Chine affiche des ambitions qui sont très claires, qui ne sont pas des ambitions d'être l'égal des puissances occidentales, mais d'être le leader, c'est-à-dire de disposer de technologies dont les autres pays ne disposent pas, et ce, avec une hégémonie... voilà. Alors, ça inquiète beaucoup les États-Unis. C'est un plan, je veux dire. On peut toujours avoir le plan d'être le meilleur du monde. Après, c'est pas parce que vous avez le plan d'être le meilleur du monde que vous êtes le meilleur du monde.
Il y a un grand retard à rattraper, en l'occurrence.
Il y a un grand retard. Et puis, le rêve d'une Chine qui serait hégémonique dans tous ces domaines-là n'est pas forcément atteignable. Mais en tout cas, ça inquiète beaucoup les États-Unis. Et ça alimente aussi cette suspicion et cette difficulté à trouver des accords, en fait. Parce que c'est le désaccord est aujourd'hui acté. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à tracer les lignes de ce que pourrait être un accord commercial entre les grandes puissances aujourd'hui, et ça paraît très très difficile.
On disait que Xavier Timbaud, que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pouvait être éventuellement une opportunité, une chance pour l'Union européenne, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que s'il y a un perdant en Europe, c'est l'Allemagne qui a connu une récession au deuxième trimestre de cette année, moins 0,1%. Aujourd'hui, la Banque centrale allemande annonce que le troisième trimestre pourrait être lui également aussi en récession, et donc deux trimestres d'affilée selon la théorie économique. Ça signifie que le pays entre véritablement en récession. Comment expliquer aujourd'hui les difficultés de l'Allemagne ?
Alors là, pour expliquer les difficultés de l'Allemagne, on est obligé d'aller un petit peu au-delà des questions commerciales. Alors, elles sont en partie quand même liées aux questions commerciales. L'Allemagne a beaucoup exporté de biens d'équipement, par exemple, vers la Chine qui s'est industrialisée. La Chine qui ralentit aujourd'hui et qui, en plus, est plus capable de fabriquer ses propres biens industriels, représente un client moins actif pour les Allemands, et ça se traduit par la fin de vraiment tout un grand cycle d'investissement dont a profité l'Allemagne par le développement de l'Asie et de la Chine, et qui touche à son terme. Mais il y a d'autres éléments qui viennent derrière. C'est assez caractéristique, par exemple, dans ce qu'on observe dans le domaine de l'automobile. Des changements, cette fois-ci, qui ne sont pas liés aux questions commerciales, mais qui sont des changements très profonds,
L'industrie automobile en pleine mutation.
Pleine mutation. L'industrie, ce qu'on appelle le modèle thermique industriel, en pleine mutation. C'est-à-dire que voilà, cette économie qui s'est bâtie sur l'utilisation de ressources minières, l'extraction de combustibles fossiles, l'utilisation de ces combustibles fossiles à la fois dans la fabrication et dans l'utilisation de ces biens industriels, la société de l'abondance et des biens de consommation entièrement disponibles, la société de la chimie et son lien avec l'agriculture et la production de biens de consommation alimentaire. Donc, tout ça sont des secteurs qui sont en plein doute, avec à la fois d'un côté des exigences environnementales qui sont de plus en plus fortes, des conséquences aussi climatiques et environnementales qui sont elles-mêmes fortes, et qui font que ces produits qui étaient le cœur du modèle économique allemand, ils ne sont pas aujourd'hui délaissés par les consommateurs, mais il y a un doute. Et ce doute-là, il fait que investir pour développer de nouveaux produits est aujourd'hui un jeu très risqué. Vous êtes Volkswagen, vous pouvez investir des milliards d'euros, mais dans quoi faut-il investir ces milliards d'euros? Est-ce qu'il faut développer des voitures qui vont consommer un peu moins, mais qui continueront à avoir les mêmes performances? Est-ce qu'il faut développer des voitures complètement différentes, avec des moteurs électriques? Ou est-ce qu'il faut même préparer le moment où on n'aura plus de voitures, parce que ça ne sera plus possible d'avoir des voitures individuelles, et qu'il faudra aller vers des solutions de mobilité complètement différentes? Quand vous êtes Volkswagen, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand c'est compliqué, on a tendance à être prudent. Ça remet en cause ce modèle, d'autant que c'est un modèle qui a vraiment besoin de... C'est un peu comme le vélo, il a besoin de continuellement avancer pour continuer à exister. Et il n'est pas du tout capable de gérer son extinction progressive. Et peut-être que dans 50 ans, on peut tout à fait imaginer qu'on n'en construira plus d'automobiles. Mais pour un constructeur automobile, imaginer son lent déclin dans les 50 prochaines années, c'est impossible. Et donc, c'est plus caractéristique d'une crise que d'une récession, en l'occurrence. Parce que même si c'est moins violent dans un premier temps,
c'est davantage structurel.
C'est beaucoup plus structurel et c'est beaucoup plus difficile à résoudre.
Donc l'Allemagne semble entrer en récession et on a vu un certain nombre d'économistes prédire une récession aux États-Unis également en 2020 ou en 2021. Comment est-ce qu'on fait pour prédire une récession à aussi long terme 2020-2021?
Alors en fait, on raisonne sur des éléments assez simples. La récession en Allemagne, elle a plutôt surpris les observateurs. Et elle est vraiment liée à cette crise dans l'automobile qu'on avait cru être une crise ponctuelle au moment des histoires de régulation en 2018, où il y a eu un changement dans la régulation environnementale des automobiles. On pensait que ça allait provoquer une espèce de trou d'air dans la production automobile. En fait, on s'aperçoit que c'est plus profond que ça, c'est-à-dire que les consommateurs achètent moins d'automobiles. Alors, ils en achètent toujours parce qu'il y a toujours des voitures qu'il faut renouveler, mais ils ont beaucoup moins d'appétence et ils s'endettent beaucoup moins pour acheter des voitures qu'ils ne le faisaient par le passé. Et ça pèse assez lourdement sur l'économie allemande. Donc, pour l'économie allemande, c'est ça. Pour l'économie américaine, pourquoi on anticipe une récession en 2020 ou en 2021? En fait, là, c'est pas un raisonnement assez simple. C'est la contrepartie ou la conséquence de la relance budgétaire que Donald Trump a initiée en 2018. Le déficit américain a augmenté de presque 2 points de PIB au moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir. Si on utilise les normes européennes, il était déjà à un niveau assez élevé, plus de 4%. Il frôle aujourd'hui les 6%, 6 points de PIB aux États-Unis. Donc c'est des montants qui sont considérables. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que la Grèce aujourd'hui. Donc on appliquerait les normes budgétaires européennes aux États-Unis, on les qualifierait de pays en faillite. Et donc, il y a un moment, et ce moment-là, il est lié au processus démocratique et budgétaire américain, il y a un moment où le gouvernement américain, l'exécutif, n'aura plus le choix, il sera obligé de réduire les dépenses, augmenter les impôts. Et c'est à partir de ça qu'on peut anticiper qu'il y aura une récession. Donc, il y a eu une expansion un peu artificielle aux États-Unis, Et ça va se traduire par un ralentissement ou une récession liée exactement au mécanisme de cette expansion en 2020 ou en 2021.
Écoutons maintenant, si vous le voulez bien, Xavier Timbaud, le point de vue de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Il était interviewé sur la chaîne américaine CNBC le 6 mai dernier.
I think it's fairly clear that there is going to be a growth slowdown.
Je pense qu'il est assez clair qu'il va y avoir un ralentissement de la croissance.
Was given what is now generally called a sugar high by.
Qu'on a donné à l'économie ce qu'on appelle aujourd'hui une montée de sucre par la combinaison du projet de réforme fiscale en décembre 2017 et de l'augmentation des dépenses en janvier 2018. Ce qui a créé une très forte augmentation du déficit, alors que le déficit était déjà très important. Et cela a stimulé l'économie à très court terme. Ce n'était pas bien conçu, et l'argent n'a pas été investi dans des investissements à long terme, mais dans des rachats d'actions. Le résultat de tout cela n'a pas fourni les bases d'une croissance durable.
Voilà, donc ce qui peut être reproché à la politique économique menée par Donald Trump, selon Joseph Stiglitz, c'est vraiment cette politique qui est de court terme, qui a permis cette croissance qu'on a vue particulièrement importante pendant plusieurs mois, mais maintenant, la fête est finie, si je puis dire.
Oui, alors elle n'est pas encore tout à fait finie, parce que la correction à apporter au déficit budgétaire n'est pas encore enclenchée, mais il paraît impossible d'échapper à cette logique-là. Et donc, oui, la fête va se terminer. Alors, c'est assez intéressant parce que Donald Trump a vraiment fait cette relance budgétaire. Bon, parfois, il faut faire des relances budgétaires. Donc, la vraie question, c'est qu'il a fait une relance budgétaire, à la fois, comme dit Joseph Stiglitz, qui était mal conçue, donc dirigée sur les entreprises et à un moment où les entreprises, précisément, n'investissaient pas, donc ça ne s'est pas traduit par l'investissement et la fabrication de capacités de production supplémentaires, donc ça accentue le côté feu de paille de cette relance budgétaire.
Donc c'est avant tout parce que c'était le mauvais moment.
Et surtout parce que c'était le mauvais moment, c'est-à-dire un moment où le taux de chômage était déjà bas aux États-Unis, et s'il y avait un problème à résoudre dans l'économie américaine, c'était plutôt celui des inégalités, mais cette relance budgétaire, en particulier ciblée par des baisses d'impôts sur les entreprises, elle n'était pas là pour diminuer les inégalités. Si ça avait été un grand plan dans l'éducation, ça aurait pu avoir un impact finalement sur les inégalités. Mais là, il n'y aura même pas d'effet positif sur les inégalités. C'est donc dans ce sens-là où la reprise qui a été faite au mauvais moment et qui a été mal ciblée ne va pas laisser, une fois que la correction sera faite, puisque correction nécessairement il faudra faire, ne va pas laisser des effets positifs dans l'économie, et donc en quelque sorte ça sera une occasion manquée. Et ça va tomber en pleine campagne électorale, et c'est là aussi où le processus démocratique américain va jouer, parce que dans cette campagne électorale, le Congrès américain, qui détient les cordons de la bourse et qui a une majorité démocrate, lui va tout faire pour imposer cette réalité budgétaire
à la Chambre des représentants.
Voilà, et l'imposer à l'exécutif américain. Et ça peut accentuer, en fait, paradoxalement, la récession dans une campagne électorale où il faudra démontrer que la politique de Donald Trump était vraiment la pire qui soit.
Terminons peut-être ce tour d'horizon, Xavier Timbaud, des différents ralentissements économiques auxquels on assiste dans un certain nombre de grandes puissances économiques. Ce qu'on constate aussi, c'est que la Chine, aujourd'hui, connaît un ralentissement important. La Chine qui a connu 20 ans de croissance économique autour de 9% en moyenne. Aujourd'hui, elle est autour de 6%. Là encore, on peut se demander jusqu'à quel point c'est la guerre commerciale qui provoque ce ralentissement économique chinois.
Ouais, de ce point de vue-là, si on prend l'histoire des 20 dernières années, la guerre commerciale, pour le moment, ça reste anecdotique. Et donc, dans le ralentissement chinois, il y a une partie de la guerre commerciale, mais il n'y a pas que ça. Alors, les deux phénomènes qu'on peut dégager, ils sont assez importants parce qu'ils vont vraiment être déterminants pour les décennies qui viennent. Le premier, c'est le processus de développement chinois, qui a été un processus de rattrapage. On l'a connu en Europe, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale. La France, l'Allemagne, l'Italie ont rattrapé les États-Unis et le Royaume-Uni. Ont connu une croissance très importante pendant une période d'une trentaine d'années. On appelle cette période les 30 glorieuses, d'ailleurs, en France. Ça a laissé un souvenir tout à fait fort. Voilà, la Chine est en train d'arriver à la fin de ce processus de développement qui a été très très rapide historiquement, un des plus rapides jamais observés dans l'histoire économique. Et il va se traduire à un moment par son épuisement et par le fait que la croissance chinoise ralentit. Mais elle ralentit parce que les arbres ne peuvent pas monter au ciel en quelque sorte. Mmh. Donc c'est simplement l'expression de ça.
La Chine qui avait voulu se tourner davantage peut-être vers la consommation intérieure, là où son modèle est très essentiellement tourné sur les exportations.
Et d'ailleurs, le discours de se tourner vers une consommation intérieure et de développer son économie de ce point de vue-là, de développer aussi une protection sociale pour réduire le taux d'épargne, tout ça sont les éléments qui constituent une économie plus mature. Mmh. Et alors, il y a un deuxième aspect qui lui est aussi extrêmement important, qui nous renvoie à ce qui se passe chez Volkswagen, mais qui se passe aujourd'hui partout, c'est la question du changement climatique, qui fait que y a deux choses importantes. C'est la première, on a aujourd'hui des effets négatifs du changement climatique sur les économies, soit par les événements extrêmes, les catastrophes, les incendies, la chute des rendements agricoles, soit par la nécessité d'avoir des réglementations environnementales qui font qu'on ne sait plus comment fabriquer les automobiles. C'est particulièrement vrai en Chine. On pensait que la Chine serait un marché pour l'automobile qui serait totalement explosif. Mais en fait, il y a une autre réalité explosive en Chine qui est la question de la pollution urbaine et qui est liée aux automobiles. Et donc, on a là cette contradiction. D'un côté, cette économie qui a besoin de l'automobile pour continuer de croître, mais aussi cette croissance qui produit son poison, la pollution, et qui finit par empêcher cette croissance. Et
donc vous liez aussi le ralentissement de l'économie mondiale au changement climatique ou aux nécessités de la transition écologique ?
Oui, alors là, déjà aux conséquences du changement climatique, et puis ensuite il y a les nécessités du changement, de la transition environnementale qui vont demander de mobiliser beaucoup d'investissements, mais des investissements qui ne vont pas servir à produire plus, mais qui vont servir à produire en émettant moins de CO2. Donc c'est absolument nécessaire pour limiter le changement climatique, mais ça ne va pas produire plus de consommation. Et donc là aussi, les économies sont confrontées à un phénomène qui est assez nouveau et qui est un petit peu la fin de la course en avant et la nécessité de prendre en compte cette dimension environnementale qui va induire, oui, un ralentissement assez important des économies, dont la Chine.
Il n'y a plus d'argent. Afin de pouvoir nous gruger, on en profite à l'étranger pour traiter le français d'enfant léger. On a prouvé que c'était du bluff. N'oublions pas 89. Quand le franc vaudra 20 sous, comme il les valait naguère, dans une France prospère, nous oublierons. On parlera français chez nous, quand le franc vaudra 20 sous. Des hommes d'affaires peu scrupuleux, profitant des camps malheureux, spéculent sur le franc, c'est scandaleux. Ils achètent pour une bouchée de pain tous nos immeubles, nos terrains, bientôt il ne nous restera plus rien. Mais nos châteaux, nos objets d'art, s'achèteront plus à coups de dollars.
Quand le franc vaudra 20 sous, voilà ce que chante Germaine Lix à la veille de la Grande Dépression. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Et nous poursuivons notre discussion sur le ralentissement de l'économie mondiale. Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, est toujours avec nous. Alors face à cette menace, comment relancer la croissance mondiale? Comment éviter cette récession annoncée? Et d'abord, Xavier Timbaud, quel peut être le rôle joué par les banques centrales? Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre possibles?
Alors, les banques centrales sont dans une position aujourd'hui qui est très très compliquée. Alors, en tout cas, en ce qui concerne surtout les États-Unis. La question sur l'Europe est de nature assez différente et la question chinoise est encore dans un contexte lui-même particulier. Mais pour les États-Unis, vous voyez, tout le paradoxe, il est d'un côté l'économie américaine va plutôt bien, c'est-à-dire elle est sortie de la crise de 2008 assez rapidement. Le taux de chômage est retourné à un niveau bas, les profits des entreprises sont à un niveau très élevé. La croissance a été quand même plutôt forte, les actifs, la valeur des actifs a été regonflée, donc tout le problème de la capitalisation des retraites est d'une certaine façon résolu. Donc on pourrait dire que la mission a été accomplie. Les problèmes qui restent, c'est une dette publique qui s'est beaucoup accrue et un déficit public qui n'est pas réduit, mais après tout, la stratégie qui a été suivie a été de repousser ces problèmes-là pour plus tard, de résoudre d'abord les problèmes réels de l'économie, directs de l'économie en priorité.
Donc ce serait l'heure de relever les taux.
Mais c'est l'heure de relever les taux et pas de restimuler l'économie américaine. Et puis Donald Trump arrive et fait la guerre commerciale, une relance budgétaire. Donc si on devait relancer l'économie pour compenser les conséquences de la guerre commerciale et pour compenser les conséquences de l'arrêt de la stimulation budgétaire au moment où les déficits sont vraiment très élevés, on aurait une utilisation de la politique monétaire qui serait cette fois-ci non pas pour relancer l'économie quand elle va mal, mais relancer l'économie quand on a fait n'importe quoi.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que voilà, Donald Trump attend de la Fed qu'elle rattrape finalement les erreurs, les limites de sa politique économique.
Voilà, sachant qu'elle ne les rattrapera pas. C'est-à-dire que la politique monétaire ne va pas ramener la politique budgétaire de Trump ou la guerre commerciale dans l'état d'avant. Donc ce n'est pas un rattrapage, c'est une forme de compensation, mais qui est une espèce de fuite en avant et qui, en fait, ne mettrait plus de limites à ce que Trump pourrait envisager de faire. Donc, voilà.
Alors, mais elle pourrait tout de même, cette baisse des taux, alors on a vu que la Fed, effectivement, avait commencé à relever ses taux à partir de 2015, je crois, et cet été, en juillet, à nouveau, la Fed a décidé de diminuer, de baisser ses taux. La question qui se pose, c'est l'efficacité de cette mesure. Est-ce que tout de même, c'est susceptible de ralentir la survenue de cette récession aux États-Unis?
Ça peut contribuer à repousser l'échéance ou à lisser les conséquences de la guerre commerciale, mais voilà, aujourd'hui la politique monétaire ne peut pas compenser ce qui est en train d'être fait sur le plan commercial, par exemple. Ce qui est fait sur le plan commercial aura des conséquences. Si on pense que ça a des conséquences qui sont positives à long terme, bah à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir un soutien de la politique monétaire, puisque les conséquences positives finiront par arriver. Et si on pense qu'en fait les conséquences sont négatives, y compris à long terme, mais à ce moment-là, il ne faut pas faire la guerre commerciale. Il faut trouver le plus rapidement possible les nouvelles lignes de cet accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Donc,
mais la Réserve fédérale a au moins la possibilité de diminuer ses taux, là où la BCE a encore moins de marge de manœuvre.
Oui, alors elle a la possibilité de diminuer ses taux là où la BCE a encore des marges, n'a plus de marge de manœuvre, mais elle est quand même confrontée à un désaccord, disons, stratégique et une possibilité d'instrumentalisation très forte de par l'exécutif américain. Et donc elle est vraiment prise dans un espèce de chantage. Chantage dont joue Trump assez habilement, qui consiste à dire bah voilà, il y a un ralentissement économique et vous ne voulez pas utiliser les instruments dont vous disposez pour l'empêcher, et donc en fait vous êtes responsable de ce ralentissement économique, alors qu'en fait ce ralentissement économique il est quand même provoqué essentiellement par la politique poursuivie par Trump.
Et donc, en abaissant ses taux, en juillet, la Réserve fédérale a donc cédé à la pression politique.
Elle a abaissé ses taux d'un quart de point en se basant sur le fait que l'inflation était un peu moins élevée qu'attendue, et donc pour montrer qu'elle n'était pas rigide dans sa politique, elle était capable de réagir aux informations conjoncturelles et qu'elle était en quelque sorte indifférente à ce que pouvait dire Donald Trump. Mais c'est un jeu compliqué qu'elle joue et elle est véritablement prise dans une situation assez difficile où elle est vraiment challengée par Donald Trump et où elle ne veut surtout pas, disons, elle ne peut pas commettre la moindre erreur, puisque la moindre erreur lui serait attribuée comme ayant des conséquences catastrophiques sur l'économie. Voilà. Alors ça, c'est la situation aux États-Unis. Et là, de ce point de vue-là, il est difficile de dire, bah oui, la politique monétaire doit absolument stimuler l'économie. Enfin, on n'est pas dans le cas où...
On attend trop des banques centrales, selon vous ?
Bah, en tout cas, on n'est pas dans le cas où, normalement, la politique monétaire doit s'appliquer. Voilà, si on pense que la politique commerciale de Trump n'est pas la bonne, encore une fois, c'est pas la politique monétaire qui va arriver à compenser ça.
Et du côté des politiques monétaires menées par la Chine, Xavier Timbaud, les États-Unis ont accusé Pékin de dévaluer volontairement le yuan. Est-ce que c'est une accusation qui vous semble crédible ? On a parlé de guerre des monnaies. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une guerre des monnaies ?
Oui, c'est une question qui est nécessairement sur la table, puisque le yuan est une monnaie assez particulière, qui n'est pas totalement convertible et qui n'est pas en change flottant, donc son prix n'est pas déterminé par les marchés. Et par ailleurs, la Banque centrale de Chine dispose d'une capacité d'intervention phénoménale. Et puis enfin, elle exerce un contrôle des capitaux, c'est-à-dire les capitaux n'entrent pas ou ne sortent pas librement de Chine. Alors ça présente beaucoup d'intérêts pour la Chine, qui sont à la fois pouvoir contrôler la stabilité de sa monnaie, mais aussi un contrôle stratégique de qui détient les investissements en Chine.
Et c'est un outil éventuel pour relancer la croissance.
Et c'est un outil pour, bien sûr, relancer la croissance. Et d'ailleurs un outil qui peut avoir des conséquences assez négatives, mais en tout cas c'est un outil qui est clairement utilisé par la Chine dans cette perspective-là. Et donc effectivement, du point de vue des États-Unis, un excédent commercial de plusieurs centaines de milliards de dollars combiné à une monnaie et des contrôles de capitaux, ça veut dire que la bonne valeur du yuan serait beaucoup plus élevée par rapport au dollar pour redonner de la compétitivité à l'économie américaine et que l'économie chinoise reperde. Voilà, donc ça c'est un diagnostic qui est forcément assez juste. Voilà, quels sont quelles sont ensuite les politiques qu'on peut mettre en place pour pousser les Chinois à réévaluer. Si on est dans la recherche d'un accord commercial avec la Chine, si tant est que ce soit possible, en particulier sur les questions de protection industrielle, ce serait probablement un des éléments à mettre sur la table. Mmh. Mais est-ce que on peut arriver à un accord commercial, ou est-ce qu'il est possible d'avoir un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ? C'est en fait le cœur de la question.
Et le cœur de la question, c'est effectivement comment relancer cette coopération internationale qui bat de l'aile. Je vous propose d'écouter Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui s'exprimait samedi lors du G7 à Biarritz.
Il faut arrêter les guerres commerciales. Les accords commerciaux et la réforme de l'OMC sont de meilleures solutions que ces guerres commerciales. Celles-ci ne vont faire que nous mener à des récessions, alors que des accords commerciaux porteraient l'économie. Sans oublier que les guerres commerciales entre les membres du G7 mèneront à une érosion d'une confiance qui est déjà affaiblie aujourd'hui entre nous.
Alors il y a cette question de la coopération internationale. Est-ce que cela passe par exemple par une réforme de l'OMC ? On peut se demander s'il est encore possible de réformer l'OMC qui a été tant critiquée par Donald Trump.
Alors la question de l'OMC, elle est vraiment une question qui est assez cruciale et assez complexe et assez difficile en fait. Alors la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'OMC est au bord de l'effondrement. À la fin de l'année 2019, donc dans quelques mois, le dispositif de résolution des conflits à l'OMC, qui est vraiment la clé de voûte du fonctionnement de l'OMC, parce que à l'OMC il y a un certain nombre de règles, et quand vous pensez que un pays tiers n'applique pas les règles, vous portez votre dispute devant cette instance de résolution des conflits. Vous pouvez prendre des mesures immédiates de correction, et l'instance de résolution des conflits va imposer un jugement qui vous donnera raison ou tort et qui permettra d'aboutir à une interprétation des accords qui résoudra le conflit.
Sauf que cette instance est menacée de disparition.
À la fin de l'année, il n'y aura plus le quorum nécessaire de juges d'arbitrage dans cette instance.
Et ce sont les États-Unis qui font blocage.
Et les États-Unis refusent de nommer les membres dont le mandat arrive à échéance. Et donc, effectivement, paralyse de ce point de vue-là l'OMC. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, l'OMC ne sera plus en capacité de fonctionner, c'est-à-dire ne sera plus en capacité de pouvoir résoudre les conflits. Ce qui veut dire que tout manquement à un accord, vous imposez des droits de douane, vous mettez une réglementation particulière sur les normes de tel ou tel produit, vous ne respectez pas un accord, tout ça pourrait être fait sans conséquence, ou sans conséquence arbitrée par l'OMC.
Et alors, est-ce que ce n'est pas déjà le cas depuis un certain temps? On entend des voix qui estiment que l'OMC est finalement mort depuis bien longtemps.
Si, si, ce sont des voix. Et c'est d'ailleurs l'analyse de l'administration américaine qui considère que, en fait, depuis le dernier cycle de négociations, celui de Doha, dans les années 2000, en fait, il n'y a pas eu de nouvel accord. Et du coup, les règles de l'OMC sont des règles très anciennes qui sont plus du tout adaptées à la nature des échanges commerciaux d'aujourd'hui, l'importance qu'a prise la propriété intellectuelle, et qui, du point de vue des États-Unis, permet à la Chine de jouer un double jeu et de tirer la couverture de son côté en copiant la propriété intellectuelle de façon abusive et évidente partout dans le monde, et en même temps en essayant de vendre ses produits sous couvert d'accords commerciaux de libre-échange dans les pays développés. Et donc ce double jeu de la Chine, en fait, irrite profondément les États-Unis, et l'absence d'accords et les échecs des négociations de Doha fait que ce sont en fait les tribunaux d'arbitrage qui ont établi des nouvelles règles, mais pour les États-Unis, ces règles ne sont pas légitimes parce qu'elles sont édictées par des juges d'arbitrage et non pas par des accords entre des nations souveraines.
Et alors, si on ne parvient pas à une coopération internationale, Xavier Timbaud, est-ce que les pays européens, eux, peuvent réussir à se coordonner pour relancer la croissance? On pense à des mesures, effectivement, budgétaires, fiscales, qui pourraient permettre au moins de ralentir la survenue de cette récession.
Alors, ça sera difficile, d'autant que la conséquence, enfin, en tout cas, le schéma dans lequel, disons le plan B, qui serait celui dans lequel il n'y a plus d'OMC, ce qui serait quand même une révolution, hein, parce que nos économies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont construites sur ce parapluie de l'OMC et sur cette doctrine des échanges commerciaux, de la spécialisation, de l'absence de droits de douane, de la normalisation internationale, de l'acceptation par les autres pays des normes qui sont édictées par certains pays, etc. Donc là, on entrerait dans une ère complètement différente. Et le plan B, à la fois pour la Chine et pour les États-Unis, consiste à dire, mais en fait, ça n'est pas très grave, parce que la spécialisation, elle se légitimait par le fait qu'il y avait des différences de coûts de main-d'œuvre qui étaient très élevées, et dans le monde de demain, il n'y aura plus de différence de coût de main-d'œuvre, et en fait, chaque région peut être en quelque sorte autosuffisante.
Mais pour cela, en Europe, il faut effectivement renforcer la coopération.
Et être autosuffisant, parce que vous voyez, la question de la difficulté pour l'Europe, c'est pas simplement de devoir faire face à une récession ou à un ralentissement, et d'utiliser les instruments budgétaires et monétaires sous réserve d'avoir les marges de manœuvre pour le faire, mais ça encore, c'est une boîte à outils qu'on sait manier. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, on n'a plus accès aux microprocesseurs, aux infrastructures de communication, on n'a plus accès à certaines capacités de fabrication de médicaments.
Et on sait comment la Chine s'est rendue indispensable dans un certain nombre de notamment les terres rares, pour ne citer qu'elles.
Exactement. Et donc, si on se retrouve face à certains produits sur lesquels on doit subir des pénuries, c'est un petit peu comme si on subissait des chocs pétroliers. Mais oui, sur les microprocesseurs, sur les médicaments, sur les terres rares, sur un ensemble de produits auxquels on n'a pas du tout anticipé qu'on puisse subir l'équivalent d'un choc pétrolier. Et être soumis comme ça à des séries de petits, mais multiples, chocs sur un certain nombre de ressources rares peut avoir des conséquences tout à fait catastrophiques sur l'Europe. Et c'est là où l'Europe doit avoir aussi son plan B. Encore une fois, on ne souhaite pas nécessairement d'appliquer le plan B, mais si jamais la situation se présente, il faut être capable de l'appliquer. Et de ce point de vue-là, l'Europe et l'état de la coordination en Europe, elle n'est pas du tout à la préparation de ce genre de plan B.
On arrive au terme de cette émission, Xavier Timbaud. Un mot de conclusion peut-être. À quels signaux, selon vous, il faudra être attentif dans les prochains jours, les prochaines semaines, de nouveaux indices de cette récession qui semble arriver?
Évidemment, il faut suivre de très près les développements de la guerre commerciale. Donald Trump nous en donne des hauts et des bas très régulièrement. Après, je pense véritablement que ce à quoi il faut se concentrer et véritablement intégrer dans nos stratégies, dans nos plans et dans nos réflexions pour le futur, c'est les questions climatiques et environnementales qui sont, elles, déterminantes et vont bien au-delà de l'écume des problèmes à court terme et vont se rappeler à nous de façon permanente maintenant.
C'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine.
On en parlait pendant l'émission, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis s'est invitée au G7 de Biarritz.
Et oui, nouvelle salve de taxes de part et d'autre et la menace par Donald Trump de retirer les entreprises américaines de Chine. Dès vendredi, les États-Unis avaient donc relevé de 5% leurs droits de douane sur l'ensemble des 500 milliards de dollars de marchandises chinoises déjà taxées. À noter que cette fois-ci, c'est quand même la Chine qui avait lancé les hostilités par des taxes sur 75 milliards de dollars de produits américains. Ceci dans un mois d'août déjà tendu par de nouvelles annonces et des accusations de dévaluation monétaire délibérée de Washington contre Pékin. Alors notons cette fois-ci une agressivité inhabituelle de la part de Pékin. Réponse de Marie-Françoise Renard. Elle est responsable de l'Institut de recherche sur l'économie chinoise à l'Université de Clermont-Auvergne.
La Chine ne va pas rester à l'écart sur ce sujet ou ne va pas faire profil bas aujourd'hui parce que cette guerre commerciale coûte cher à l'économie chinoise et que Xi Jinping, lui, a l'avenir devant lui. Il n'a pas d'échéance électorale comme Trump et donc il peut se permettre de rétorquer au fur et à mesure que Trump fait de nouvelles annonces. Alors ces nouvelles annonces de Trump, elles sont évidemment une mauvaise nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas reprendre les négociations parce qu'on a vu qu'il avait décidé dans un premier temps d'imposer aux entreprises américaines installées en Chine de revenir aux États-Unis. Pour le faire, il faudrait qu'il y ait un état d'urgence et il y a une enquête qui a été faite auprès des producteurs automobiles américains pour dire est-ce que vous pensez que l'état d'urgence est justifié pour faire du protectionnisme, et la réponse a été non.
Et depuis ce matin, Xavier, c'est de nouveau l'apaisement.
Oui, voilà, tout est possible, a répondu Donald Trump à une question sur un éventuel report des droits de douane, affirmant même que la Chine était prête à revenir à la table des négociations. Du côté des autorités chinoises, on est un peu plus réservé, voire encore menaçant. En tout cas, on sent bien que tout le monde retient ses coups. La Chine avait brandi la menace d'une taxe de 25% sur les autos américaines en octobre.
On passe au bref, G20 toujours. Donald Trump brandit la menace et la carotte des accords commerciaux.
Et oui, très grands accords à venir, d'abord avec le Royaume-Uni, même si on en sait très peu, et puis surtout avec le Japon. Accord de principe conclu ce week-end, dit-il, avec le Premier ministre Shinzo Abe, pour plus de 450 millions de consommateurs et pour lesquels, marché pour lesquels les États-Unis sont aussi en déficit, signature peut-être lors de l'AG de l'ONU en septembre.
Ailleurs dans le monde, et d'abord en France, le ministre de l'économie Gérald Darmanin, toujours en lutte contre la fraude fiscale.
Oui, une vraie croisade même, avec une visite au Panama lundi et annonce de nouvelles mesures anti-fraude dans le futur projet de loi de finances. Après la loi sur la fraude, déjà il y a un an, cette fois, la loi compte cibler les plateformes et la fraude à la TVA, notamment, c'est 80% des dossiers au pénal, avec un certain nombre de mesures, une liste noire de plateformes, et puis aussi une innovation, le renseignement fiscal. Voilà, le projet doit être présenté fin septembre en Conseil des ministres.
Et l'Allemagne réfléchit à un impôt sur la fortune. Et alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle adoptera le modèle suisse ?
Et oui, c'est ainsi que l'a présenté une partie du SPD. En tout cas, c'est le quotidien économique allemand Handelsblatt qui le rapportait ce week-end. Un projet donc des sociaux-démocrates et de leur ministre des Finances Olaf Scholz pour 10 milliards d'euros de gains potentiels annoncés. Mais un mauvais signal dans une économie au bord de la récession, déclarent les opposants. La CDU-CSU, supprimée en France, l'impôt sur la fortune existe effectivement encore en Europe, en Espagne et en Suisse.
Et pour finir, une disparition, l'industriel et libertarien David Koch.
Et oui, certains journaux en ont parlé à la fin de la semaine dernière. L'ex-président de Koch Industries, un des 15 hommes les plus riches du monde, héritier avec son frère d'un conglomérat qui était né du raffinage pétrolier, fondateur d'un grand réseau Americans for Prosperity qui finançait les campagnes américaines, lui-même candidat malheureux, libertarien convaincu, mais à l'écart, dit Le Monde, de la croisade morale de la droite américaine, capitaliste convaincu, mais pas pour autant anti-État fédéral complètement. Il est mort vendredi de maladie. Il n'avait eu cependant que peu d'influence sur l'administration Trump, à part une réforme de la politique pénale, note encore Le Monde.
Merci beaucoup Xavier, et à demain. You need On se quitte avec The Wall Street Shuffle de 10cc. Merci beaucoup Xavier Timbaud de nous avoir permis de mieux comprendre les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'économie mondiale. Demain, c'est le rôle des banques centrales dans la relance de la croissance que l'on examinera. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.